Un récit de la Mésoamérique précolombienne au Palais national de Mexico. Partons au sud-ouest du Mexique, vivre l'aventure des chercheurs d'or zapothèques et découvrir leur merveilleux savoir-faire en matière de plumes et joaillerie. Puis, laissons-nous absorber par la foule au cœur du marché de Tlatelolco, pour découvrir au loin les deux pyramides émergentes de l'ancienne cité aztèque, la grande Tenochtitlan, devenue aujourd'hui Mexico. Partons déambuler au travers des siècles et des civilisations précolombiennes. Diego Rivera nous y invite, avec ses fresques monumentales du Palais national de Mexico. Suivons ses pas. Nous arrivons sur la place de la Constitution de la ville de Mexico, surnommée El Zócalo. Sur son côté est, se déploie un bâtiment de plus de 200 mètres de long, le Palais national. Ce site est un lieu de pouvoir depuis le XVe siècle. En effet, tout près de là, sous l'édifice national Montepiedad, ont été retrouvés très récemment, en 2020, les vestiges d'un palais érigé par l'empereur aztèque Axayacatl, où vécut et régna son fils Moctezuma II. Furent retrouvés également des vestiges d'un bâtiment aux allures de forteresse, édifié sur les ordres d'Hernán Cortés, après la chute de Mexico Tenochtitlan en 1521. Enfin, l'édifice que nous avons devant nos yeux, nous le devons au vice-roi Gaspard de Sandoval, qui le fit construire suite à l'incendie de 1624, ainsi qu'aux dirigeants successifs du pays, qui y apportèrent des modifications. Aujourd'hui encore, ce lieu est le siège des institutions clés du pouvoir exécutif mexicain, puisqu'il abrite le bureau du président, le trésor fédéral et les archives nationales. Je vous propose de me suivre vers la porte sud, qui nous conduit au cœur du patio d'honneur. Il est de forme quadrangulaire. Cette cour carrée est cernée d'arcades baroques qui se superposent sur trois niveaux. L'édifice en impose. Nous nous dirigeons vers le deuxième étage et découvrons progressivement les peintures murales de Diego Rivera, qui ornent l'escalier principal et les murs des couloirs du deuxième étage sur une superficie totale d'environ 450 mètres carrés. Nous sommes maintenant dans ce corridor ouvert au deuxième étage qui s'articule autour de la cour carrée. Nous y découvrons des murs rythmés, scandés par une succession de doubles portes qui donnent accès aux différents services de l'administration. Ces doubles portes sont vitrées, celles aux angles sont en bois massif. Ces portes sont toutes encadrées par une modénature qui vient encore souligner la noblesse de l'édifice. Une modénature faite de pilastres de pierre, de pilastres cannelés, surmontés de frontons brisés à volutes. Nous sommes au cœur d'une architecture baroque. Les peintures murales de Diego Rivera animent cette architecture. Elles prennent place entre chacune de ces doubles portes, mais aussi dans les angles, mesurant tantôt 5 mètres de haut sur 3 mètres de large, tantôt 5 mètres de haut sur quelques dizaines de centimètres de large. Et pour la grande Tenochtitlan, que nous évoquerons plus tard, 5 mètres de haut sur plus de 9 mètres de large. Ces peintures monumentales, hautes en couleur, se détachent sur un mur lui-même peint en rouge. Ces fresques viennent s'intégrer entre les pilastres, elles viennent compléter et jouer avec l'architecture. Diego Rivera dit: la peinture monumentale ne vise pas à orner, mais à prolonger l'architecture au-delà de l'espace et du temps. Suivons-le. Arrêtons-nous devant le panneau intitulé « Art de la plume et orfèvrerie, culture zapothèque », réalisé en 1942. Ses dimensions précises, 4,92 m de haut sur 3,19 m de large. Avant d'entrer dans le détail de la représentation, quelques mots sur la culture zapothèque. Il s'agit d'une civilisation amérindienne, précolombienne, qui s'épanouit dans la région de l'Oaxaca, au sud-ouest du Mexique. Dans les montagnes et les vallées de la Sierra Madre del Sur et de la Sierra Madre Oriental. L'expansion de l'Empire zapothèque est particulièrement forte pendant la deuxième et la troisième période de Montealban, soit entre 200 avant Jésus-Christ et 700 après Jésus-Christ. Les zapothèques ont mis au point un calendrier et un système d'écriture. C'est donc une culture particulièrement florissante et l'œuvre que nous avons devant nous, Art de la plume et orfèvrerie, culture zapothèque, met un coup de projecteur sur l'un de ses aspects, son artisanat. Le panneau se décompose en deux parties très inégales. En haut, sur une hauteur d'environ 4 mètres, se déploie une immense représentation composée de scènes colorées et d'un paysage. Dans les dominantes d'ocre, de brun, de vert. En bas, sur toute la largeur de la composition principale et sur une hauteur d'environ 70 cm, se déploie, se déroule une frise traitée de façon très différente, dans des tons de gris. Trois représentations en grisaille s'y succèdent. Elles parlent d'économie. Trois scènes peintes nous apparaissent un peu comme gravées dans la pierre. Elles figurent l'industrie minière, la gravure et le commerce de l'émeraude. Diego Rivera utilise la même dualité dans toutes les peintures du corridor, c'est pourquoi je l'évoque ici. Ces représentations sont comme des sous-titres qui expliquent la prospérité de la civilisation zapothèque, qui témoignent de son âge d'or. Revenons à la scène principale, à la scène qui est figurée en partie haute, qui fait donc plus de 4 mètres de haut. Il s'agit d'une scène qui se déroule en extérieur. Elle présente une grande unité de couleurs, très naturelles, des ocres, des bruns et des verts. Et de nombreux personnages y sont figurés, tous vêtus de blanc. Ils donnent de la lumière, mais aussi de l'harmonie à cette représentation. La composition est structurée par une diagonale qui sépare deux activités. Au premier plan, au centre, des personnages vêtus de blanc nous font entrer dans la composition. Ce sont des personnages admoniteurs. Ils nous font pénétrer dans la fresque. Tout près de nous, tout au bord du tableau donc, deux personnes sont agenouillées. Nous les voyons de dos, très légèrement de trois quarts. De gros cercles d'or couvrent entièrement le lobe de leurs oreilles. Ce sont des orejeras. Leurs vêtements diffèrent. Le personnage de gauche, une femme sans doute, tient une aiguille dont le fil court jusqu'à la pelote, posée là, près de son genou droit. Elle coud, semble-t-il, comme un panier ou une structure circulaire en vannerie. À sa droite, l'autre personnage, aux longs cheveux blancs, à genoux également, porte, comme de nombreux autres personnages de cette représentation, une tunique blanche fixée par un nœud sur son épaule droite. Il assemble avec précision trois longues plumes vertes. Et devant lui sont alignées avec soin d'autres plumes vertes, semblables à celles qu'il manipule. Il pratique l'une des trois principales techniques plumassières de l'Amérique précolombienne, à savoir la ligature. La ligature consiste à attacher ensemble des plumes à l'aide d'un fil d'agave. La scène respire le calme et la sérénité nécessaires à l'exercice de cet art. Devant ces deux personnages, face à nous, un homme, lui aussi en tunique blanche fixée sur son épaule, se tient debout. Il porte un collier de plumes blanches orné en son centre d'un personnage sculpté. Ce collier se détache sur sa peau brune. Ses cheveux, très sombres, sont ceints d'un turban en linge blanc dont les pans retombent sur les côtés, contrastant également avec son teint mat et laissant entrevoir un bijou d'oreille, una orejera, analogue à celle décrite précédemment. Sur son poignet gauche, la lumière vient jouer avec son bracelet de perles d'émeraude ou de jade. Son visage est fin, ses traits stylisés, les yeux allongés, étirés en amande, le nez aquilin et les lèvres épaisses. L'homme regarde vers le bas. Il occupe presque la moitié de la hauteur du tableau. C'est un personnage important. Le silence semble peser, s'imposer, à cette minute où cet homme présente un travail achevé au personnage à l'aiguille et par voie de conséquence à nous, spectateurs. Il s'agit d'un petit cadre carré qui, dans la réalité, mesurait peut-être une trentaine, une quarantaine de centimètres de côté. Approchons-nous. Nous y voyons un personnage portant une coiffe à plumes, chevauchant un serpent dont les écailles semblent avoir été remplacées par des plumes elles aussi. Ces êtres hybrides traversent l'espace en diagonale, à vive allure. Sous eux, des hommes et des femmes semblent tomber dans le vide. Tandis qu'au coin, en haut à droite, un motif arrondi dans des tons de rouge accueille une tête en son centre. Le serpent, qui traverse l'espace du petit tableau en diagonale, pourrait bien sûr nous évoquer ce héros légendaire, cette divinité précolombienne, Quetzalcoatl, dont le nom signifie en langue aztèque, en nahuatl, serpent à plumes de Quetzal. Ce personnage est présent dans la religion et l'art mésoaméricain pendant près de 2000 ans. Nous sommes donc là face à une représentation en lien avec les mythes ancestraux de la Mésoamérique, et ce tableau, réalisé en mosaïque de plumes, est l'expression d'une technique ancestrale de la Mésoamérique. Cette représentation n'est vraiment pas anodine. Très fragile, très peu d'œuvres ont survécu. Pour les conserver, ces œuvres doivent être protégées des insectes qui les mangent et de la lumière qui atténue leur couleur. Les rares mosaïques de plumes encore visibles aujourd'hui furent d'ailleurs réalisées après la conquête espagnole et figurent des thèmes religieux, certes, mais catholiques. Et oui, comme le précise le musée du Quai Branly dans un communiqué lors de l'exposition « Plume, vision de l'Amérique précolombienne » qui eut lieu en 2016-2017, dans ces sociétés, les plumes précieuses, associées aux dieux et aux mythes fondateurs, sont réservées à l'usage des caciques et des guerriers et revêtent un caractère sacré dont les premiers évangélisateurs comprirent l'importance en les détournant au profit du message chrétien. Cette technique précolombienne, complexe, qualifiée de peinture à la plume par les Espagnols, consistait donc en un collage d'arrangements de plumes grâce à un adhésif fabriqué à partir de bulbes d'orchidées. Et cette technique s'est poursuivie, elle a été pratiquée pendant les 3 siècles de présence coloniale des Espagnols au Mexique. Ici, dans cette fresque, Diego Rivera tient donc à apporter un témoignage capital d'un art dont les œuvres ont aujourd'hui disparu, de cet art de la plume dans l'Amérique précolombienne. L'observation de cette œuvre conduit Michel à m'interroger.
Explique-moi dans quel but Diego Rivera choisit ce sujet. Pourquoi choisit-il de le peindre ?
Eh bien, Michel, c'est une œuvre qui s'inscrit dans un projet politique, le projet de valoriser la culture indigène. D'ailleurs, le général Lázaro Cárdenas, qui fut président du Mexique de 1934 à 1940, parle ainsi du muraliste. Rivera est un indigéniste fier de ses racines autochtones. Sa personnalité est imprégnée d'une grande sensibilité novatrice qui s'exprime à travers des images de fraternité et de progrès de l'homme. Ici, Rivera nous livre une vision apaisée, une vision utopique. Nous sommes presque comme dans un âge d'or. Et comme le souligne le docteur en histoire de l'art Itzel Rodriguez Mortallero, Rivera peint l'Antiquité indienne comme un monde de paix et de concorde, empreint de romantisme. Les activités productives et créatrices se réalisent en toute harmonie, Quetzalcoatl, chef de la culture, est le symbole de cet âge d'or où les hommes vivent tous égaux, loin du conflit social. Diego Rivera est un artiste engagé, qui définit d'ailleurs ainsi son idéal. La véritable civilisation sera l'harmonie des hommes avec la terre et des hommes entre eux. En gardant en mémoire cette idée d'âge d'or, je vous propose de suivre le fil de la plume et de poursuivre la découverte de cet atelier à ciel ouvert. Le peintre cherche ici à nous faire participer à la vie de ses activités productives et créatrices des civilisations mésoaméricaines précolombiennes. Il cherche à nous montrer à quel point ces pratiques étaient spécialisées et codifiées. Observons. À gauche des trois personnages que nous avons décrits, la surface picturale est presque entièrement consacrée au travail de la plume. La scène occupe tout le coin gauche du tableau, jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, sur près de 3 mètres de haut. À gauche donc de la femme à l'aiguille, légèrement en retrait, un artisan, un plumassier, un amanteca comme on les appelle, est incliné sur son ouvrage. Il travaille très méticuleusement avec les pigments posés à sa droite. Tandis qu'un autre homme derrière lui fixe les plumes sur la coiffe d'un crâne blanc. Un troisième exécute encore une autre tâche face à eux. Il semble comme coller ou aplanir une surface avec un outil métallique en forme d'arc de cercle. Juste derrière ce groupe d'artisans, une autre scène prend place. Et cette fois, c'est comme si nous assistions à un essayage. Devant un étendard dont les plumes de Quetzal s'élèvent presque jusqu'au bord supérieur du tableau, un homme et une femme sont debout, face à nous, parés tous deux de coiffes extraordinaires. Celle de l'homme est ornée d'abondantes plumes blanches, disposées comme un éventail autour d'une composition constituée d'un cercle en or, sans doute, et de plumes aux couleurs chamarrées. Il porte un pagne, une cape blanche, et un bijou sur sa poitrine, un pectoral, orné d'une magnifique pierre verte sculptée, de l'émeraude ou du jade sans doute. La femme à sa gauche, vêtue de blanc également, arbore quant à elle un somptueux collier d'or et de pierres précieuses, un brassard orné de longues plumes vertes, et une coiffe très importante, de la moitié de sa taille, évoquant un animal mythique. Devant eux, toujours plus près de nous, deux personnages leur tendent respectivement un miroir en forme de crâne, afin que le cacique, et sans doute son épouse, puissent admirer leurs atours. À leurs pieds, un autre personnage encore s'apprête à se saisir d'un bouclier de plumes orné d'une tête de mort. Il va le tendre au chef, au cacique. Les plumes avaient bien sûr une fonction esthétique, c'est le cas ici sur ce bouclier cérémoniel. Elles avaient également une fonction plus technique puisqu'elles servaient à atténuer les coups au combat. Diego Rivera s'est énormément documenté pour réaliser ses peintures murales et il nous donne à voir les différentes techniques décrites notamment dans le Codex Florentin, intitulé « Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne », cette encyclopédie du monde aztèque, composée de 3 volumes, divisée en 12 livres, établie au Mexique, sous la supervision du moine franciscain Bernardino de Sahagún, entre 1558 et 1577. Les plumes, évocation métaphorique du monde supérieur des cieux, sont donc omniprésentes dans la cosmologie mésoaméricaine. Ces plumes, ces trésors de la nature, sont des objets de grande valeur, au même titre que le jade ou la turquoise. Elles ornent les présents diplomatiques, servent à la confection des vêtements de cérémonie du chef, du Tlatoani, accompagnent les guerriers. Elles constituent également une part essentielle des tributs versés par les cités conquises. La tradition conférait aux objets en plumes des propriétés magiques. Ils étaient symboles de fertilité, d'abondance, de richesse et de pouvoir. Et ceux qui les utilisaient, comme le cacique, ici représenté, étaient associés à des pouvoirs divins. Les artisans eux-mêmes, les amantecas, ici abondamment représentés, sont une classe privilégiée. Ils sont regroupés dans une sorte de corporation qui bénéficient de nombreux avantages. Ils pouvaient notamment envoyer leurs enfants dans les collèges. Maintenant que nous avons approfondi ce vaste coin gauche de l'œuvre de Rivera, je vous propose de prendre du recul pour mieux appréhender la composition dans son ensemble. Une composition structurée en trois parties est largement marquée, comme je l'ai évoqué au début de la description, par une diagonale qui part du bord inférieur du tableau, à droite des personnages centraux, pour s'élever jusqu'au coin supérieur gauche du tableau. La scène figurée à droite de cette diagonale, toujours en partie basse, est tout aussi passionnante que la précédente. Nous quittons le monde de la plumasserie pour plonger dans celui de l'orfèvrerie. Sur un espace légèrement plus restreint, dans un style peut-être plus descriptif, Diego Rivera nous fait vivre toutes les tâches de l'atelier. La fonte, l'emboutissage, la ciselure de l'or, la taille des pierres. Nous entendons le feu qui crépite, le son du marteau qui vient frapper le burin. Une quinzaine d'artisans travaillent méthodiquement. Ils sont concentrés sur leurs tâches respectives, tous représentés avec grand soin, dans toute leur technicité. Diego Rivera illustre ici encore un art dédié aux élites, chefs de gouvernement, guerriers, nobles et autorités religieuses. Un art où la symbolique est au rendez-vous. L'or représentait l'essence du soleil. Il était associé au jour, à la vie et à l'homme. L'argent, essence de la lune, était associé à la nuit, au cycle mensuel de la lune et à la femme. Aujourd'hui encore, on raconte ce que les sages de la région murmurent. Depuis les temps anciens, la ville zapothèque de Monte Albán est la porte du ciel où se cachent les rayons du soleil, de la lune et des étoiles pour se transformer en une poussière d'or qui illumine le chemin des habitants de l'Oaxaca, les dotant de sensibilité et d'adresse. En effet, Diego Rivera dépeint ici un art d'une finesse extraordinaire, réputé dans tout le monde mésoaméricain. À Tenochtitlan, par exemple, des artisans zapothèques façonnaient des bijoux pour les dirigeants aztèques, y compris Moctezuma II. Dans un instant, nous en croiserons sans doute sur le marché de Tlatelolco. Diego Rivera apporte donc ici, avec cette œuvre murale, avec cette fresque, un témoignage de cet art dont peu d'objets encore nous sont parvenus, car ils furent abondamment fondus par les Espagnols. Je vous propose de poursuivre notre déambulation au cœur de l'œuvre et d'élever maintenant notre regard pour découvrir le bandeau supérieur. À l'arrière-plan de ces deux ateliers à ciel ouvert, nous découvrons tout d'abord des bâtiments traditionnels constitués de piliers de bois surmontés de toits de chaume. Quelques oiseaux posés çà et là semblent observer le travail des hommes. Au-delà de cet habitat, nous changeons de style de peinture. C'est une peinture moins dense, beaucoup plus aérée. Nous découvrons un paysage qui fait rêver. Un paysage qui vient compléter les deux scènes du bas. Le méandre d'une rivière se faufile à travers une végétation luxuriante. Nous discernons à peine des personnages de toute petite taille. Une dizaine de collecteurs d'or s'y activent avec leurs tamis. En prêtant plus attention encore, nous découvrons deux archers. Les oiseaux qui servaient à l'art de la plume étaient-ils donc tous chassés, tués ? Certaines espèces oui, comme les cotingas, d'autres espèces non, comme les quetzals. En effet, les célèbres quetzals, oiseaux sacrés par excellence, étaient capturés, plumés, puis relâchés. D'où ce filet que nous apercevons étendu entre les arbres au bord de la rivière, et ces hommes portant des caisses en rotin sur leur dos, des caisses qui abritent sans doute quelques quetzals qu'ils viennent juste d'attraper. Les plumes de leur queue sont en effet particulièrement recherchées. De couleur vert émeraude, elles atteignent parfois jusqu'à 1 mètre de long. Elles repoussent chaque année et reflète la lumière du soleil et le feuillage grâce à une multitude de pigments. Diego Rivera, en partie hôte de cette magnifique peinture murale, a donc dépeint, encore une fois, avec une précision qui témoigne de ses recherches approfondies sur les civilisations mésoaméricaines précolombiennes, tout ce qui se passe en amont du travail des artisans de ces deux ateliers. Maintenant que nous avons abondamment déambulé dans cette œuvre, que nous nous sommes immergés dans la civilisation zapothèque, nous pourrions nous interroger sur la technique utilisée par Diego Rivera pour cette composition, mais également pour toutes les autres qui nous entourent. Diego Rivera a été formé au Mexique et influencé par José María Velasco ou encore José Guadalupe Posada, et ensuite, il a voyagé à travers toute l'Europe. Ses sources d'inspiration sont donc multiples. Ici, dans toutes ses peintures murales, il utilise la technique de la fresque qu'il a appris notamment de Giotto en Italie. Il utilise 10 pigments minéraux, du bleu cobalt jusqu'à l'oxyde de fer rouge. Il les applique avec des pinceaux fins sur un enduit frais. C'est une technique qui ne laisse aucune place à l'erreur. Pas de repentir possible. Car dès que le pigment est posé, il fusionne avec le plâtre humide. C'est une technique qui exige également une organisation du travail extrêmement précise. Il était en effet indispensable de définir la surface, la zone qui sera peinte le lendemain, qualifiée de giornata, afin que les coutures, les séparations entre les différentes sections restent invisibles, indiscernables, une fois l'œuvre achevée. Ces coutures étaient donc dessinées en fonction des contours de la représentation et tracées au fusain au préalable. Ces peintures murales sont un véritable travail de titan.
Quant à la représentation, le style, si tu veux, elle m'évoque Fernand Léger. Crois-tu qu'il ait pu être influencé par cette façon de représenter les personnages ?
Effectivement, Michel, on peut voir des points communs entre les œuvres de Diego Rivera et celles de Fernand Léger. Tous deux cherchent à produire un art populaire, engagé, dans des échelles souvent monumentales. Tous deux schématisent les figures. Pour Fernand Léger, nous pourrions notamment nous référer à des œuvres comme La Lecture de 1924 ou encore Composition aux deux perroquets de 1935. En revanche, Michel, il me semble que Fernand Léger joue beaucoup plus sur le contraste des couleurs. Diego Rivera est plus dans l'harmonie, dans un jeu de couleurs naturelles, ocre, vert, brun. En fait, ici, cette représentation idéalisée de la culture zapothèque et de son artisanat me pousserait plutôt à faire un rapprochement avec l'œuvre et l'approche de Paul Gauguin, qu'il admirait énormément. Je pense par exemple à une œuvre comme Area Area. Les deux peintres affichent en effet une proximité, là encore dans le traitement simplifié des personnages. Ils les stylisent, mais les individualisent en précisant leurs gestes, leurs attitudes, leurs vêtements, leurs coiffes, leurs bijoux. Les lignes sont douces, la courbe à la part belle, les surfaces sont simplifiées, la perspective abolie. La composition et le chromatisme de Diego Rivera créent l'idée d'un âge d'or qui pourrait nous faire songer au paradis perdu de Paul Gauguin. Enfin, pour conclure sur cette question du style de Diego Rivera, qualifié parfois de naïf, je voudrais souligner sa maîtrise picturale exceptionnelle, qui joue sur les plans rapprochés et les lointains, qui construit une composition solide, étayée par des lignes de force puissantes. Michel, je te propose maintenant de quitter ce monde serein de l'artisanat zapothèque pour entrer dans l'effervescence du marché de Tlatelolco et découvrir le monde aztèque et la grande Tenochtitlan. Mais avant de commencer, je crois que tu as une question.
Explique-moi la différence entre les zapothèques et les aztèques.
Ce sont deux cultures de Mésoamérique qui ont existé dans des régions différentes du Mexique et à des époques différentes de l'histoire mexicaine. La culture zapothèque est l'une des plus importantes de l'histoire du Mexique, préhispanique. Elle était implantée dans l'état d'Oaxaca, nous avons vu ça tout à l'heure, au sud-ouest du Mexique. Sa capitale était Montealban. Montealban qui a d'ailleurs été occupée entre 500 avant Jésus-Christ et 800 après Jésus-Christ. C'était une civilisation extrêmement florissante qui a donné naissance à des édifices monumentaux, mais également à un artisanat d'une extrême finesse dont nous avons découvert aujourd'hui deux facettes, la plumasserie et l'orfèvrerie. Un artisanat qui est d'ailleurs resté très prisé dans toute la Mésoamérique, au-delà de la période d'apogée de la civilisation zapothèque. Et c'est pourquoi nous le retrouverons sur le marché de Tlatelolco tout à l'heure, au XVe-XVIe siècle. La civilisation aztèque, quant à elle, est beaucoup plus récente. C'est une civilisation prospère, hiérarchisée, qui domine le sud et le centre du Mexique du XIVe au XVIe siècle, donc beaucoup plus tardivement. Les Aztèques fondent en 1370 sur les îles de Texcoco la célèbre ville de Mexico Tenochtitlan, qui dépasse en nombre d'habitants les capitales européennes, et l'Empire atteint son apogée sous les règnes de Moctezuma I dès 1440 et Moctezuma II dès 1502. Ce dernier meurt lapidé le 29 juin 1520 et le 13 août 1521, la capitale de Tenochtitlan est conquise par les troupes d'Hernán Cortés et c'est la fin de l'Empire aztèque. Après ce point historique sur les Zapotèques et les Aztèques, je vous propose de poursuivre notre déambulation pour entrer dans l'œuvre intitulée « La grande Tenochtitlan », entre parenthèses, vue depuis le marché de Tlatelolco. Cette peinture murale fut réalisée 3 ans après l'art de la plume et de l'orfèvrerie culture zapothèque. Il s'agit d'une œuvre de 4,92 m de haut, comme la précédente. Mais cette fois, nous sommes dans un format paysage de 9,32 m de long. Si l'œuvre précédente était riche en découvertes, vous imaginez que pour celle-ci, étant donné son ampleur, des heures entières de contemplation ne suffiraient pas à l'appréhender dans ses moindres détails. En partie basse est dépeinte une scène de marché, le Tianguis de Tlatelolco, ville fondée en 1337, située au nord de Tenochtitlan. Pour nous mettre dans l'ambiance, je souhaiterais vous lire un extrait de la description qu'en fit Hernán Cortés à Charles Quint dans sa seconde lettre de relation le 30 avril 1520. Il y a dans cette ville de nombreuses places occupées par des marchés permanents et des lieux de vente en plein air. Il existe en particulier une grande place de 2 fois la taille de celle de Salamanque, entourée d'arcades et fréquentée tous les jours par plus de 70 000 âmes. On s'y approvisionne de toutes les richesses dont regorge la terre entière, de matériaux et de vivres, de bijoux en or et en argent, en plomb et en laiton, en cuivre, en étain, confectionnés avec des pierres précieuses, des œufs, des coquillages, des escargots et des plumes. Hernán Cortés évoque 70 000 âmes. Le chiffre est invérifiable. En tout cas, nous sommes dans un lieu fréquenté par plusieurs dizaines de milliers de gens. Entrons dans la scène figurée. Michel, oui, tu as une question ?
Les scènes sont surabondantes et je ne vois pas bien la composition. Peux-tu me dire comment elle est organisée ?
Oui, bien sûr, Michel. Nous sommes ici devant une gigantesque composition horizontale. Le tableau est divisé en 3 plans de grandeurs inégales. Le premier plan occupe la moitié inférieure du tableau et la moitié supérieure est divisée de façon quasiment égale. Les 3/4 inférieurs de la représentation sont donc couverts, animés par une scène de marché, dans laquelle je vous propose de pénétrer tout de suite. Nous sommes au milieu de cette place gigantesque. Nous sommes au milieu de la foule, une foule organisée où chacun mène son activité sereinement. Certains sont venus pour faire commerce, d'autres pour parler, manger, se faire soigner, se divertir. Je te propose, Michel, que nous entrions dans la composition par le coin inférieur gauche. Là, des femmes viennent justement acheter des fruits et légumes. Elles forment un petit groupe. Juste à côté, un peu plus à droite, au premier plan, un enfant de dos porte un bébé sur son dos et tire un jouet en bois, un chien à roulettes. Cet enfant tient allongé dans ses bras une botte de 6 magnifiques arômes blancs, aussi grands que lui. Il nous fait entrer dans le tableau. C'est un personnage admoniteur. Si nous faisons maintenant un vrai pas vers la droite, Je vous rappelle que l'œuf fait plus de 9 mètres de long. Nous nous retrouvons face à un homme, précédé sans doute de son fils. Ils sont tous deux arc-boutés. Ils portent sur leur dos une énorme charge. Celle du jeune garçon semble être un ballot de cannes ficelées. Des cannes de maïs, sans doute. Le cordage les tient serrées l'une contre l'autre, mais joue aussi un rôle dans le portage. En effet, ce cordage vient s'enrouler autour du front de l'enfant qui, dans l'effort, le tient avec ses mains au niveau des tempes. Faisons cette fois deux pas vers la droite. Nous poursuivons notre cheminement dans ce dédale fort organisé, comme le soulignait Hernán Cortés. Nous sommes maintenant face à deux personnages qui échangent du maïs contre des fèves de cacao. La fresque de Diego Rivera nous documente sur la vie économique des Aztèques. Le commerce reposait sur le troc et le cacao était une des monnaies d'échange. L'histoire du cacao remonte à 4000 ans en Mésoamérique antique. Le peuple aurait appris sa culture du dieu serpent à plumes Quetzalcoatl lui-même. La civilisation olmèque a été la première à transformer ce cacao en une boisson, le Xocolcatl, ce qui veut dire « eau amère » en nahuatl. Il se buvait lors des rituels, il était considéré comme une boisson sacrée aux multiples vertus. On l'utilisait également comme médicament. Et deux siècles plus tard, chez les Aztèques, dans la civilisation où nous sommes plongés, les fèves étaient utilisées comme monnaie. Le chocolat était toujours considéré comme un cadeau de Quetzalcoatl. Il était utilisé comme une boisson rafraîchissante, comme aphrodisiaque, mais aussi pour se préparer à la guerre. Puisque nous sommes devant une scène de troc entre maïs et cacao, parlons maïs maintenant. Il y a 9000 ans, la population consommait déjà du maïs avec des épis de 3 à 4 cm de long. En 1000 ans, les peuples précolombiens ont appris à le sélectionner. Il est devenu la base de leur alimentation, la base de l'alimentation des Incas, des Mayas, des Aztèques. Et dans la mythologie, ce sont aussi les dieux qui l'apportèrent à l'humanité. Le maïs est la plante de la civilisation de la Mésoamérique, comme l'affirme l'historien français Fernand Braudel, qui parle justement de civilisation du maïs. Mais continuons notre progression. Faisons encore deux pas vers la droite. Là, nous entrevoyons un jeune garçon, debout, de profil. Sa mère, agenouillée derrière lui, lui tient fermement le bras gauche. Face à eux, un homme, avec le nez percé, traversé par un os, lui ouvre grand la bouche. Nous sommes chez le dentiste. Encore un petit pas vers la droite. Une femme, vêtue de blanc, occupe la moitié de la hauteur du tableau. Nous levons les yeux pour voir son visage qui doit être à plus de 3 mètres de haut. Nous découvrons que sa tête est cernée par une auréole d'arômes blancs qui mettent en valeur ses longs cheveux bruns. Elle porte également une petite couronne de fleurs de couleur, des bijoux et tient une fleur dans sa main gauche. De sa main droite, elle soulève dans un geste évocateur sa robe fendue pour nous dévoiler les tatouages dessinés sur sa cuisse. Elle porte des sandales, alors que presque tous les personnages représentés, hommes, femmes, enfants, sont pieds nus. Qui est cette femme? Peut-être est-ce la divinité féminine des travaux domestiques, de l'amour et de la joie dans la mythologie aztèque. Appelée Xochiquetzal, son nom signifie « belle fleur »,« fleur plume ». Ses traits, en tout cas, nous évoque ceux de Frida Kahlo. Et puis elle est cernée par au moins 8 hommes qui la regardent avec concupiscence et lui tendent des présents. Je ne vais pas tous vous les décrire, mais certains méritent qu'on s'y arrête. Ce groupe de deux, par exemple, juste derrière le dentiste, semble de connivence. Celui de gauche tend un dindon mort à la jeune femme et lui montre son collier qui ressemble à une bourse, tandis que son ami de mèche lui lance un clin d'œil entendu. À droite de la jeune femme, un autre homme portant une cape de couleur or et une magnifique coiffe de plumes lui tend un bras arraché, peint en blanc, avec des traces de sang. Est-ce celui d'une victime ennemie ou celui d'un homme sacrifié? Est-elle vraiment cette déesse à qui l'on vient faire des offrandes? Est-ce une fille de joie dont on cherche à acheter les services, la question reste ouverte, mais suivons son regard. Il nous conduit à cet homme qui occupe la position centrale de la peinture murale, mais aussi la position centrale du second plan du tableau. Il domine, il préside la scène en toute sérénité, il est face à nous et regarde vers la droite, en direction de cette femme à la robe blanche. Il est assis dans un siège en vannerie, formant comme une coque autour de lui. Il est porté par 4 natifs. Il est brun, les yeux en amande, le nez aquilin, les lèvres épaisses. Il arbore une coiffe bleue. Il est vêtu d'une robe blanche et tient dans sa main droite un éventail de plumes. Son immobilité contraste avec l'activité qui anime tous les autres personnages du tableau. Est-ce le Tlataoni, terme que l'on traduit parfois par « roi » et qui définit la fonction du plus haut dirigeant militaire et religieux d'un altépetl, cité-état aztèque? Est-ce Moctezuma II, le 9e Tlataoni de l'Empire aztèque qui était alors à son apogée? Les tribus payées par les peuples soumis affluaient et le trafic commercial s'épanouissait sous son règne? C'est très probable, comme on atteste la ressemblance de son profil, avec la gravure de l'explorateur et historien André Thevet dans le tome 3 du recueil « Les vrais portraits et vies des hommes illustres, grecs, latins et païens » datant de 1584. En tout cas, lui aussi est au cœur du marché, puisqu'à sa gauche, nous voyons encore des marchands qui manipulent cette fois d'immenses nattes de roseaux, des tapis de joncs, des esteras. Ils s'activent sur une plateforme située devant un temple, devant une pyramide à 2 sanctuaires, aux marches tachées de sang, du sang des sacrifices nécessaires au bon fonctionnement et à l'équilibre du cosmos. À droite du personnage central, au-dessus de la femme en blanc, se déploient encore des étals de poterie, d'orfèvrerie, sans doute zapothèque. Il y a même un lieu où l'on peut se restaurer. Des personnes y sont attablées. Ce marché de Tlatelolco n'en finit pas, je vous l'avais dit. Hernán Cortés nous l'avait dit. Au-dessus de cette foule organisée, de cette économie traduite en images, se déploie donc sur le dernier quart supérieur du tableau le sujet lui-même, la grande Tenochtitlan. Nous devons prendre du recul pour découvrir cette extraordinaire vue panoramique. Une merveille, une ville d'une grande symétrie, d'une grande rigueur urbanistique. Nous avons devant nous une des plus grandes villes du monde de cette époque, fondée en 1325. Cette ville qui, à l'arrivée des Espagnols, s'étend sur 3 km de côté, sur près de 1000 hectares. Elle pouvait compter entre 500 000 et 1 million d'habitants, d'après l'ethnologue Jacques Soustel. Ici, nous sommes frappés par la rigueur de l'organisation des quartiers desservis par de grandes avenues et de nombreux canaux. Rappelons que cette ville est située sur une île. Tenochtitlan est construite au cœur du lac de Texcoco. Elle est reliée au continent et à Tlatelolco par de larges chaussées construites sur l'eau. Diego Rivera nous détaille précisément les quartiers. Les historiens nous disent que toutes les constructions devaient être approuvées par le Calmimilocatl, un fonctionnaire chargé de l'urbanisme de la ville. Chaque maison, même modeste, possédait, semble-t-il, son jardin et son bain de vapeur. Empruntons le pont à 2 voies qui relie Tlatelolco à Tenochtitlan. Diego Rivera nous y invite. Nous apercevons au loin le centre religieux où domine la grande pyramide à degrés, El Templo Mayor, dédiée au dieu Huitzilopochtli et Tlaloc. Mais lorsque nous empruntons cette voie, ce pont, nous ne pouvons qu'être admiratifs de l'ingéniosité des Aztèques qui, face à une terre initialement peu accueillante, faites de marécages hostiles, ont déployé une inventivité sans pareille. Nous en avons un exemple sur notre droite. Nous découvrons en effet comme de petits champs flottants. Ce sont probablement ces chinampas, ces radeaux d'osier couverts de limon, qui servent à accroître les surfaces cultivées de maïs. Nous pouvons aussi nous émerveiller du paysage sur lequel se détache cette vue panoramique de la ville, cette vue panoramique de 9 mètres de long. Il s'agit d'un paysage de montagnes et de volcans. En effet, nous avons en face de nous le Iztaccíhuatl, ce qui veut dire femme blanche en nahuatl, dont le sommet dessine justement une femme allongée. Et plus à droite, le Popocatépetl, qui veut dire « montagne qui fume ». Après cette description qui, je l'espère, vous aura plongé l'espace d'un instant dans l'effervescence de ce marché, dans la grandeur de cette ville, qui vous aura fait entrevoir l'ingéniosité et la puissance du peuple aztèque, il est temps de conclure. Ici, au Palais National de Mexico, Diego Rivera cherche à produire un art lisible, accessible, populaire. C'est un peintre qui a un rapport primordial à l'architecture. C'est un peintre qui répond à une commande pour promouvoir le Mexique. Un peintre engagé qui cherche à faire partager ses connaissances de l'histoire mexicaine avec tous. Les dirigeants successifs du Mexique ont bien compris le pouvoir de narration de Diego Rivera. Ici, il fait l'éloge de ces civilisations qu'il replace parmi les plus grandes du monde. Il met en lumière leur grandeur enfouie sur les siècles de colonisation espagnole. Il écrit d'ailleurs sur le rôle de l'art dans la société. La peinture et la sculpture seront toujours plus utiles pour le plaisir esthétique, le développement de la sensibilité et d'une capacité supérieure à la joie pour la collectivité humaine. Il précise, l'art mural est le plus signifiant pour le prolétariat, la peinture de chevalet est un objet de luxe au-delà des moyens du prolétariat. Diego Rivera n'a pas fait dans la demi-mesure, il a peint 4200 m² de fresques dans sa vie. Aux côtés de José Clemente Orozco et de David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera est un des trois grands, los tres grandes, du muralisme mexicain, mouvement artistique qui s'est développé au début du XXe siècle dans une nation en pleine construction, juste après le processus révolutionnaire de 1910. C'est un mouvement qui a été particulièrement fort jusque dans les années 1950. Il fallait faire émerger un sentiment d'appartenance et instruire. Nous sommes ici devant une réécriture picturale de l'histoire du Mexique, comme le dit la journaliste Claire Plisson. Une réécriture qui a inspiré d'autres muralistes, notamment Los Chicanos. Une réécriture émouvante et puissante qui nous aura fait voyager dans les siècles et nous aura transportés au cœur de ces fascinantes civilisations mésoaméricaines chez les Apothèques et les Aztèques. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation téléphonique du mois de mai 2023 avec l'association Un regard pour toi qui soutient les déficients visuels. Je tiens tout particulièrement à remercier Michel pour son aide et ses conseils. Merci à vous tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.